fait comme ça.
Séance donc du mardi 4 février 2025. C'est notre cinquième séance sur la question de la liberté. Alors ce soir, je voudrais aborder, comme je l'ai dit, la lecture d'un grand philosophe contemporain, Jean-Paul Sartre, qui est présenté très souvent comme le philosophe de la liberté. Et la question, effectivement, de la liberté présente partout dans l'œuvre de Sartre, aussi bien son œuvre philosophique que son œuvre théâtrale, que son œuvre romanesque. Mais pour lui, c'est un tout. Hein. La littérature, pour Sartre, c'est pas séparable de sa recherche philosophique. C'est même une sorte d'illustration, si vous voulez. Alors, on pense, par exemple, à une série de romans, enfin, un roman en trois volumes, qui a pour titre « Les chemins de la liberté ». On ne lit plus tellement les œuvres romanesques de Sartre, mais bon, c'est assez intéressant. Philosophiquement, la liberté est surtout abordée dans la dernière partie de « L'être et le néant ». Il y a quatre parties dans « L'être et le néant ». Et la dernière partie, elle a pour titre « Avoir, faire et être ». Et pour ma part, pour préparer cette séance, je me suis appuyé surtout sur la première et la dernière partie, la première et la quatrième partie, et dans la première partie, deux chapitres, le problème, enfin, la première partie a pour titre le problème du néant. Il y a deux chapitres, l'origine de la négation et le chapitre sur la mauvaise foi. Et concernant le chapitre 4, concernant la quatrième partie, pardon, le premier chapitre qui a pour titre Être et faire la liberté. Être et faire la liberté. Voilà. Et puis évidemment, il y a d'autres œuvres qui peuvent aussi alimenter la réflexion. Les réflexions sur la question juive, par exemple, ou enfin, vous verrez, j'en parlerai. Alors, à première vue, l'œuvre philosophique de Sartre est une œuvre difficile. Parce que Sartre fait usage, d'ailleurs comme les philosophes contemporains, d'une conceptualité qui décourage souvent le lecteur. Disons, il faut un travail préparatoire. Mais heureusement, il recourt aussi à des exemples lumineux qui facilitent la compréhension et permettent d'entrer dans sa réflexion. Alors, il ne faut pas se décourager, si vous voulez. Hein, vous verrez, d'ailleurs, il y a des pages, franchement, c'est tout à fait accessible. Alors, que Sartre soit présenté comme un philosophe de la liberté, vous me direz qu'il n'y a rien là de très original, car on peut considérer, d'une façon ou d'une autre, que les philosophes, tous, chacun, en tout cas à leur façon, sont des philosophes de la liberté. Seulement, si j'insiste tout de même sur la question de la liberté concernant Sartre, c'est parce qu'il donne à la liberté un sens beaucoup plus large, beaucoup plus radical que celui qui est ordinairement donné dans la philosophie classique. Je pense par exemple au philosophe Descartes, philosophe du libre arbitre. Parce que pour Sartre, elle n'est pas bien sûr seulement un statut qu'il faut protéger par des lois. Bon, ça, on est d'accord, ça ne peut pas être ça. Hein. La liberté, il l'envisage sur le plan métaphysique, si vous voulez, hein. comme Descartes, par exemple, pas seulement sur le plan politique. Mais sur le plan métaphysique, justement, elle n'est pas une propriété de la nature humaine. Elle n'est pas une propriété de la nature humaine, c'est-à-dire, elle n'est pas cette capacité que la volonté humaine a de se déterminer en toute indépendance, ce qu'on appelle classiquement le libre arbitre. Il n'envisage pas comme ça. Il n'envisage pas la liberté comme un libre arbitre. Plus profondément, plus radicalement, la liberté est pour Sartre, ce qui constitue la réalité humaine. Elle est l'être même de l'homme. Et il a une expression pour le dire, elle est l'étoffe. Elle est l'étoffe de l'être humain. Elle est notre étoffe. Elle est ce dont quoi nous sommes faits. Et elle est ce qui fait que l'homme, justement, n'a pas de nature. On ne peut pas définir l'homme comme on définit une chose. Car définir l'homme, ce serait l'enfermer dans une nature, dans une essence, qui déterminerait par avance ses possibilités. Vous voyez ? Il n'envisage pas une nature humaine, il ne parle jamais de nature humaine. Il parle de réalité humaine. Ce n'est pas la même chose, vous allez voir. Alors, le plan que je suivrai est le suivant. Dans un premier temps, nous nous demanderons d'abord en quel sens, oui, les hommes sont libres. En quel sens l'homme est un être libre dans son être même. Pour le dire avec le vocabulaire adéquat, ontologiquement, c'est-à-dire dans son être même. Et pourquoi la liberté n'est pas simplement une qualité de l'homme parmi d'autres qualités? Ensuite, ça c'est la question fondamentale. Ensuite, nous nous demanderons comment nous savons que nous sommes libres. Quelle preuve avons-nous de notre liberté? Comment en prenons-nous conscience? C'est ça, la seconde question. Et nous verrons à cette occasion que si nous savions vraiment ce qu'est la liberté, eh bien, elle ne nous paraîtrait pas du tout agréable. Nous ne l'aimerions pas. Et c'est d'ailleurs parce qu'elle se révèle à l'homme comme un fardeau que nous cherchons plutôt à la fuir. Par cette conduite que Sartre appelle la mauvaise foi. Et ce sera l'objet de la troisième partie. Enfin, quatrième partie, si, comme le dit Sartre, la liberté est ce qui constitue la réalité humaine, est-ce que cela veut dire que l'homme plane au-dessus des choses et qu'il peut faire abstraction des situations dans lesquelles il est placé? Alors, évidemment, on peut se douter que ce n'est pas la conclusion de Sartre. Mais c'est ce qu'on pourrait, avec une lecture un peu superficielle, croire au départ. Hein. Non, ce n'est pas la conclusion de Sartre. Évidemment, nous devrons comprendre pourquoi. On ne peut pas conclure de cette façon. Et nous aurons l'occasion de comprendre ce que Sartre veut dire quand il dit que la liberté est en situation. Formule de Sartre importante, célèbre, la liberté est en situation. Voilà, les quatre étapes. Alors, première partie, donc en quel sens l'homme est-il un être libre dans son être même? Alors, il est libre en ce qu'il est une conscience. Et je ne dis pas parce qu'il a une conscience, mais je dis qu'il est libre en ce qu'il est fondamentalement une conscience. Ce n'est pas la même chose. Et par là, nous allons voir qu'il se distingue radicalement des choses. Alors évidemment, cette opposition exige une explication. La conscience n'est pas une chose d'une nature un peu spéciale que l'on pourrait appeler l'esprit. Ou le psychisme, si on fait moderne. Non, la conscience, ce n'est pas ce qu'on appelle l'esprit ou le psychisme. Ce n'est pas une chose. Vous voyez, quand on dit l'esprit, quand on dit le psychisme, on parle au fond d'une chose. D'une nature spéciale, évidemment. D'une chose qui a une nature spéciale, mais c'est une chose, qui a des contours, qui a des propriétés. Non, il ne parle pas de la conscience dans ces termes-là. La conscience n'est pas un être qui existe par lui-même, indépendamment de sa relation au monde, de sa relation aux choses. La conscience n'est pas un être qui a une identité, comme les choses ont une identité. Parlons brièvement des choses, si on veut bien ici clarifier. Une chose est ce qu'elle est. Cette table est une table, ni plus ni moins. Ce livre est un livre, ni plus ni moins. Les choses ne peuvent pas être autre chose que ce qu'elles sont. Et pour caractériser le mode d'être des choses, eh bien Sartre dit qu'elles sont en soi. Il utilise cette formule, elles sont en soi. EN, trait d'union, SOI. Elles sont en soi par opposition au mode d'être de la conscience qui est d'être pour soi. La conscience est pour soi, c'est-à-dire qu'elle est présente à elle-même en quelque sorte. Et alors, quand je dis que les choses ne peuvent pas être autre chose que ce qu'elles sont, je ne dis pas qu'elles ne peuvent pas changer. Je ne dis pas qu'elles ne peuvent pas changer. Elles peuvent changer, mais leurs changements sont des changements qui sont soit inscrits dans leur nature, soit qui sont le résultat de causes extérieures. Je vais prendre des exemples. On parle par exemple de la croissance d'une plante. Cette croissance ne fait pas que cette plante change de nature. Elle reste la même. Elle se développe selon une croissance et tout. On parle ainsi aussi du vieillissement d'un organisme. On parle aussi, alors, si je prends un autre cas, on parle du changement de couleur d'un mur qui a été repeint. Mais c'est un changement qui lui est apporté. Donc ces changements ne remettent pas en cause l'identité de la chose qui est affectée par eux. La chose reste la même, elle demeure ce qu'elle est. Et contrairement justement aux choses, la conscience se caractérise par le fait paradoxal qu'elle n'est pas identique à elle-même, qu'elle ne demeure pas ce qu'elle est. Elle n'est pas identique à elle-même en ce qu'elle se rapporte toujours à autre chose qu'elle. Et elle se rapporte toujours à autre chose qu'elle. Et Sartre reprend, dans L'être et le néant, une formule qui est celle d'un philosophe allemand qui s'appelle Edmund Husserl, qui est le fondateur de la phénoménologie, de ce courant philosophique auquel Sartre se rattache, dont il est un héritier. Il est allé d'ailleurs à Berlin en 1936 pour étudier l'œuvre de Husserl. Et que dit Husserl ? C'est une formule qui a l'air anodine, mais il faut comprendre. Toute conscience est conscience de quelque chose. Toute conscience est conscience de quelque chose. Voilà la formule que reprend Sartre à Husserl. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça signifie que la conscience n'est pas un être enfermé en soi. Ce n'est pas un être qui aurait un dedans. Parce que quand on se représente traditionnellement la conscience, on se la représente comme un contenant, comme une sorte de boîte dans laquelle il y aurait des pensées, des idées, des émotions, etc., etc. Vous voyez, on se la représente comme ça. Donc la conscience n'est pas un contenant, elle n'a pas de dedans, elle n'est pas une intériorité, si vous voulez, pour le dire d'une autre façon. Mais au fond, c'est quoi la conscience ? C'est le rapport au monde, c'est le rapport aux choses. C'est le rapport aux choses, et ce qui caractérise la conscience, c'est qu'elle est essentiellement un mouvement vers quelque chose qu'elle appréhende comme extérieur à elle. Elle est un mouvement vers le dehors, un mouvement vers quelque chose d'extérieur qu'elle appréhende justement comme extérieur à elle, comme distinct d'elle. Donc elle est toujours tournée vers le dehors. Et s'il n'y a pas de dehors, s'il n'y a pas de monde, il n'y a pas de conscience. La conscience, elle n'existe que dans ce rapport à autre chose qu'elle. Alors quelques exemples pour que l'on me comprenne bien. La conscience, par exemple, elle est conscience de cet arbre, de ce mur. Elle est conscience de cet arbre quand elle perçoit cet arbre. Ou encore, elle est imagination d'un fantôme, quand elle imagine un fantôme. Ou encore, elle est souvenir de la maison où j'ai vécu enfant, quand elle se souvient justement de cette maison. Ou encore, elle est opération intellectuelle qui consiste à additionner. Elle est l'opération intellectuelle d'une addition. Dans tous ces exemples, qui sont très différents, dans tous ces exemples, la conscience est conscience de quelque chose. Elle se rapporte à autre chose qu'elle. Elle se rapporte à un arbre, elle se rapporte à un fantôme, elle se rapporte à la maison d'autrefois, ou elle se rapporte à une addition. Être conscient, vous voyez, c'est être présent à soi, comme percevant un arbre, comme imaginant un fantôme, comme se souvenant de la maison d'enfance, ou comme effectuant une addition. Vous voyez, c'est ça, la conscience. Elle est toujours ce qui vise autre chose qu'elle, quelle que soit cette chose. Et encore une fois, elle n'est rien par elle-même. Une conscience toute seule n'existe pas. Elle n'est rien par elle-même. Elle n'existe que par son rapport à l'objet qu'elle vise, quel que soit cet objet. Que cet objet soit réel ou irréel, l'arbre est réel, le fantôme est irréel, que ce soit une chose matérielle ou que ce soit une idée, une pure opération intellectuelle. Ainsi, donc, en tant que conscience, en tant qu'il est une conscience, l'homme n'existe pas comme on dit des choses qu'elles existent. Il n'existe pas à la manière des choses. Et d'ailleurs, si on se rappelle l'étymologie du verbe « exister », « exister » vient d'un verbe latin « ex », « ex », plus loin « sistere », « s-i-s-t-e-r-e », « ex sistere », qu'est-ce que ça veut dire en latin ? Ça veut dire « se tenir hors de soi ». Donc si on prend au sérieux cette étymologie, on devrait dire que seul l'homme existe. Seul l'homme existe au sens où il est toujours en rapport avec autre chose que lui, au sens où il se projette par sa conscience au-dehors de lui-même. Seul l'homme existe. Et on devrait dire plutôt des choses qu'elle subsiste. Qu'elle subsiste au sens où elles demeurent ce qu'elles sont, au sens où elles sont enfermées dans leur être, où elles restent identiques à elles-mêmes, où leur identité est immuable, où elles sont en soi. Alors, comme la conscience n'est pas un être à la manière des choses, mais un perpétuel mouvement vers autre chose qu'elle, eh bien, sa définition ne peut être que paradoxale. La définition de la conscience ne peut être que paradoxale. Et alors, vous allez peut-être sourire quand vous allez entendre la définition, mais vous allez voir que ce n'est pas qu'un jeu de mots. Sartre définit la conscience comme l'être qui est ce qu'il n'est pas et n'est pas ce qu'il est. L'être qui est ce qu'il n'est pas et n'est pas ce qu'il est. On dirait ça, ah, c'est bien un philosophe. Toujours des mots là, hein, bon, c'est ce qu'on serait tenté de se dire. Non, il ne s'agit pas d'un jeu de mots, et vous allez comprendre la pertinence de cette définition en justement en prenant quelques exemples. Je reprends les mêmes. Quand je perçois un arbre, ma conscience est conscience de cet arbre. Elle n'existe que comme conscience de l'arbre qu'elle vise. Elle n'existe que comme conscience de l'arbre qu'elle vise. En ce sens, la conscience est ce qu'elle n'est pas. Et en ce sens, elle est ce qu'elle n'est pas. Mais en même temps, elle n'est pas cet arbre. Elle s'en distingue. Elle le fait apparaître comme n'étant pas elle. Elle le fait apparaître comme n'étant pas elle, comme extérieure à elle. Vous voyez, vous avez un double mouvement. Hein, vous avez les deux en même temps. Ainsi, dans la perception d'un arbre, la conscience est à la fois cet arbre, elle est ce qu'elle n'est pas, et elle n'est pas cet arbre, en le faisant apparaître comme n'étant pas elle. Vous voyez ? En fait, ce que dit Sartre, c'est des choses très simples. Hein, très simples. Vous allez voir, c'est la même intuition qui va du début jusqu'à la fin, qui sera toujours la même. Et plus vous vous approprierez le philosophe, mieux vous comprendrez. Alors, cette analyse que je viens de faire, elle n'est pas seulement valable pour les objets du monde extérieur, elle s'applique aussi à cet être que j'appelle moi. Cet être dont je suis conscient. Quand j'ai conscience de moi, de manière réfléchie. Moi, ma personnalité, vous voyez, c'est ça. Hein, c'est le moi est ici l'objet de ma conscience. Elle est ce à quoi elle se rapporte. Évidemment, à l'issue d'une réflexion. Et la conscience, elle n'est pas originellement réfléchie. Donc, mais à l'issue d'une réflexion, on s'appréhende comme un moi. Hein, on réfléchit sur soi. Bon. On se traite comme un objet, en un sens. Hein. Alors, la conscience que j'ai de moi fait que je ne peux pas dire que je suis moi. Paradoxalement. Elle fait que, paradoxalement, je suis moi et je ne suis pas moi en même temps. Et oui, vous allez comprendre. À la fois, je suis ce moi dont j'ai conscience, oui. Mais je m'en distingue aussi. Je ne suis pas non plus ce moi. Je m'en distingue en le posant comme, justement, un être extérieur à ma conscience. Vous voyez ? Donc, je suis moi et je ne suis pas moi. Il y a un dédoublement, en quelque sorte. Donc, paradoxalement, je suis toujours plus et autre que ce que je suis. C'est-à-dire que la conscience, si vous avez bien compris ce qu'elle est, ce mouvement perpétuel, la conscience fait que je ne peux pas me réduire à ce moi dont j'ai conscience. Je ne peux pas me réduire à ce moi dont j'ai conscience. Vous voyez ? Alors bien sûr, j'ai un être. J'ai, comme on dit, une identité. Je suis de tel sexe, de tel âge, je suis célibataire, marié, veuf ou divorcé, j'ai telle profession, ou je suis chômeur, étudiant ou retraité, troisième catégorie. Je suis français ou étranger, je suis ceci ou cela, nous avons tous un état civil. Mais ce que je suis, je ne le suis pas au sens où cette chaise est une chaise. Mon identité n'a rien à voir avec ce qu'on peut appeler l'identité de cette chaise. Je suis ceci ou cela, mais comme n'étant pas réductible à ceci ou cela, comme pouvant être autre chose que ceci ou cela. Donc, vous voyez que la conscience, c'est ce qui fait que j'échappe à ce que je suis et que je le mets perpétuellement en question. Elle est ce qui fait que je mets perpétuellement en question mon identité. Si, effectivement, je n'étais que ce que je suis, je ne me poserais pas de questions. Je serais comme les choses. je me contenterai d'être. Mais justement, la conscience est ce qui fait que je ne me réduis jamais à ce que je suis et que je le mets en question. Vous voyez ? Alors, on peut le dire encore d'une autre façon, je suis présent à ce que je suis tout en étant à distance de ce que je suis. Vous voyez ? Les deux. Alors, puisqu'on parle aujourd'hui beaucoup d'identité nationale, de quelle manière puis-je dire que je suis français ? Je suis français, bien sûr. Mais est-ce que je suis français comme un chêne qui a des racines ? Le fait ici d'être français, si j'ai bien compris ce que j'ai dit, le fait d'être français ne m'enferme pas dans l'identité d'un végétal. C'est une identité à laquelle je peux me rapporter de plusieurs manières, de plusieurs façons. Il y a plusieurs façons d'être français, plusieurs façons de donner sens à cette identité. L'identité nationale ne peut pas être celle d'un minéral ou celle d'un végétal. Quand bien même on voudrait la définir ainsi, quand on se dit par exemple français de souche. Ah oui, quand on se dit français de souche, on considère qu'effectivement on est comme un végétal, quoi. On est français comme on est une plante. Bon, alors justement, même si on veut se définir ainsi, il n'en demeure pas moins que c'est là une façon de se rapporter à l'identité nationale, mais que l'identité nationale en question, elle n'existe jamais que pour une conscience qui s'y rapporte et qui lui donne sens. Elle n'est jamais réductible à l'identité d'une chose, d'un minéral ou d'un végétal. Vous voyez que ce qui est essentiel à l'homme, ce n'est pas d'être ceci ou cela, c'est de pouvoir être ceci plutôt que cela, et de pouvoir être ceci de telle manière plutôt que de telle autre. Vous voyez ? On voit ainsi que du fait de la conscience, l'homme est un être. Alors, je vais citer une formule de Sartre au début de L'être et le néant, mais elle est assez claire maintenant, vous allez comprendre. L'homme est un être pour lequel il est dans son être perpétuellement question de son être. Jolie formule. Il est dans son être, il est un être pour lequel il est dans son être perpétuellement question de son être. C'est-à-dire qu'il ne peut pas se contenter d'être, il ne se contente pas d'être, il est toujours en mouvement. Hein. La conscience, c'est ce qui fait qu'il est en perpétuelle quête de soi. Hein. Et il fait qu'il n'y a pas d'identité figée. Donc il est un être qui ne peut jamais coïncider avec son être. Il ne peut jamais coïncider avec son être. Il est cet être qui, n'étant pas ce qu'il est, se projette toujours au-delà de son être, au-delà de lui-même. Et comme il se projette toujours au-delà de son être, il a perpétuellement à être. Vous voyez ? Comme il ne se contente pas d'être, eh bien, il a à être. Vous voyez ? Son être est à venir. Et vous voyez que loin d'être un échec, cette impossible coïncidence avec son être ouvre à l'homme un avenir, il faut prendre ça au pied de la lettre, un avenir. Hein. Vous voyez que cette impossible coïncidence avec son être, c'est précisément ce qu'on appelle la liberté. C'est ça la liberté. C'est ça, c'est ce mouvement de la conscience qui constitue l'être de l'homme, qui fait qu'il n'a pas d'être, qu'il est toujours en quête de son être. Vous voyez ? Elle n'est rien d'autre, la liberté. Elle n'est rien d'autre que ce mouvement de la conscience qui porte l'homme à nier l'être qu'il est. À nier l'être qu'il est, il n'est pas ce qu'il est, pour se projeter vers autre chose. Et ce mouvement de la conscience par lequel elle nie, au fond, ce qu'elle est, elle s'arrache perpétuellement à elle-même, à son être, eh bien, ce mouvement, Sartre va l'appeler la néantisation, mais là encore, ne vous effrayez pas, nous allons avoir l'occasion de comprendre ce que cela signifie. Néantisation. Au fond, l'idée de Sartre, c'est ce qu'il développe au début de L'être et le néant, c'est que c'est la conscience, c'est par la conscience que le néant vient à l'être. Et le néant, c'est ce qui fait qu'on ne se contente jamais d'être. On est toujours en train de mettre en question l'être. Hein, on fait advenir le néant, la négation est quelque chose de positif pour Sartre. Hein. Le néant, c'est ce qui vient de la liberté de l'homme. Vous voyez ? Bon. Mais avant de définir ce terme, et bien comprendre ce que cela signifie, il faut, je crois, mesurer l'originalité de la réflexion de Sartre sur la liberté et voir en quoi elle se démarque aussi bien de la thèse déterministe que de celle du libre arbitre, puisque cette année, on a réfléchi là-dessus. Hein. On a vu ce que c'était que le déterminisme et la thèse opposée qui est celle du libre arbitre. Bon. Eh bien, au début de la quatrième partie de L'être et le néant, Sartre s'étonne. Alors, je ne vous ai pas photocopié le texte, mais c'est facile à entendre. Il s'étonne que les philosophes, je cite, aient pu raisonner à perte de vue sur le déterminisme et le libre arbitre, sans tenter au préalable d'expliciter les structures contenues dans l'idée même d'action. Sans tenter au préalable d'expliciter les structures contenues dans l'idée même d'action. Alors, faisons un petit peu le point d'abord. Hein. Comme on a eu l'occasion de le voir dans les précédentes séances, vous savez que deux thèses s'affrontent traditionnellement au sujet de la question de la liberté. Je résume. Hein. Le déterminisme, c'est la thèse selon laquelle tout ce qui existe existe en vertu de cause. Tout ce qui se produit selon des lois nécessaires. Et l'homme n'est pas une exception. L'homme n'est pas une exception. Tout ce qu'il fait, tout ce qu'il vit, s'explique par des causes. Qu'il en soit conscient ou non. Qu'il s'en rende compte ou non. Et donc, le libre arbitre, évidemment, pour le déterminisme universel, le libre arbitre est une illusion. Hein ? À l'opposé, la thèse du libre arbitre revient à faire de l'homme une exception, oui, par rapport au reste de la nature, puisque l'homme aurait le pouvoir, il aurait ce pouvoir absolu de choix, il aurait le pouvoir de se déterminer en toute indépendance, hein, de décider de ses actes en toute indépendance, et c'est ça qu'on appelle le libre arbitre. J'ai résumé. Alors, pour Sartre, cette discussion est stérile. Elle est stérile parce que si on ne commence pas par examiner d'abord ce qu'est une action et ce que présuppose une action, eh bien, on n'y verra pas clair. Justement, cet examen de l'action et de ce que présuppose une action, cet examen va lui permettre de montrer que la liberté est la condition première de l'action. Elle est la condition première de l'action, mais c'est ce qu'il faut montrer. Alors d'abord, qu'est-ce qu'une action ? Vous voyez, qu'est-ce qu'elle n'est pas, par exemple ? On ne dira pas d'un fumeur maladroit qui, par mégarde, c'est un exemple de Sartre, hein, qui, par mégarde, a fait exploser une poudrière. On ne dira pas que cet homme, il y a beaucoup d'exemples amusants hein, dans l'œuvre de Sartre, on ne dira pas que cet homme a agi. Il n'a pas voulu ce qu'il a fait. D'accord. En revanche, on dira d'un ouvrier qui a dynamité une carrière qu'il a agi. Certes, il a exécuté les ordres qu'on lui a transmis, qu'on lui a donnés, mais il a bien réalisé intentionnellement un projet conscient. C'est simple. Donc, pour qu'il y ait action, il faut par conséquent qu'il y ait une intention d'agir. On est d'accord. Mais Sartre ne s'arrête pas là. Maintenant, il va montrer que pour qu'il y ait intention d'agir, pour qu'il y ait une intention, eh bien, il faut que celui qui agit estime que quelque chose fait défaut dans la situation présente. Il faut qu'il estime que quelque chose manque, que quelque chose fait défaut dans la situation présente. C'est-à-dire qu'on agit parce qu'on ne s'accommode pas de l'état de fait présent. Par exemple, je reprends mon exemple, si on veut extraire de la pierre, eh bien on ne peut pas laisser la carrière en l'état. Il faut la dynamiter. Vous voyez ? Il y a quelque chose qui laisse à désirer. On n'agit que parce que la réalité laisse à désirer, en quelque sorte. Hein. Et le site Sartre, agir, par conséquent, c'est modifier la figure du monde, c'est disposer des moyens en vue d'une fin. C'est disposer des moyens en vue d'une fin. Et puis plus loin, il écrit la chose suivante, cela signifie que dès la conception de l'acte, la conscience a pu se retirer du monde plein, dont elle est conscience, et quitter le terrain de l'être pour aborder franchement celui du non-être. Alors, ça a l'air compliqué, ça l'est pas. Je reprends ce que je viens de vous dire. Cela signifie que dès la conception de l'acte, la conscience a pu se retirer du monde plein dont elle est conscience, et quitter le terrain de l'être pour aborder franchement celui du non-être. Alors, pour le dire autrement, et je reviendrai éventuellement sur la formule que j'ai citée, pour le dire autrement, pour qu'une action soit possible, comme je le disais, il faut que la réalité laisse à désirer. Il faut lui trouver un défaut. Il faut lui trouver un manque. Il faut que la conscience y introduise du non-être. Parce que qu'est-ce que c'est qu'un défaut ? C'est du non-être, hein. C'est quelque chose qui n'est pas. Hein. Il faut que la conscience introduise du néant, du non-être, c'est pareil. Puisque agir, c'est modifier la réalité en visant ce qu'elle devrait être et qu'elle n'est pas. En visant ce qu'elle devrait être ou ce qu'il faudrait qu'elle soit, et puis à ce moment-là, c'est la modifier en ce sens. Donc je reprends. Vous voyez, agir, pour qu'il y ait action, il faut effectivement viser ce qui n'est pas. Hein, il faut viser une fin qui pose ce qui n'est pas, hein, puisque c'est la conscience qui introduit ici du néant dans l'être, hein, en visant ce que la réalité devrait être et qu'elle n'est pas. Et puis ensuite, évidemment, elle modifie cette réalité en ce sens-là, en s'en donnant les moyens. Vous voyez que la liberté, ce n'est rien d'autre que ce mouvement de la conscience qui porte ainsi l'homme à nier la réalité à laquelle il fait face. À nier la réalité à laquelle il fait face et dont il est capable de se distancier pour la modifier. Et qu'est-ce que ça veut dire, nier la réalité ici ? C'est justement où Sartre a un autre mot pour le dire, néantiser. La fameuse néantisation. C'est-à-dire que par sa conscience, l'homme est précisément cet être qui néantise l'être. Il est cet être qui produit du néant dans l'être, qui introduit du néant dans l'être, justement. Et c'est parce qu'il introduit du néant dans l'être qu'il agit. Vous voyez ? Ce qui rend donc concevable l'action, c'est ce pouvoir de négation de l'être humain, que Sartre appelle la néantisation. Et qu'est-ce que c'est que la néantisation ? Ce n'est pas autre chose que la liberté. Ce n'est pas autre chose que la liberté. Liberté qui porte l'homme à ne pas se contenter de l'état actuel des choses, de l'état présent des choses, mais à le nier, à le néantiser, pour le modifier. Vous voyez ? Alors ici, attention, qu'on ne se méprenne pas sur le sens du terme néantisation. Néantisation ne veut pas dire destruction. Évitons les confusions. Néantisation ne veut pas dire destruction, ne veut pas dire anéantissement, ne veut pas dire annulation, vous voyez ? Évitons ces confusions. la conscience n'a pas le pouvoir de faire disparaître la réalité. Elle n'a pas le pouvoir de détruire la réalité. Mais elle a celui de s'en distancier pour la mettre en question et modifier son rapport avec elle. Vous voyez ? C'est en ce sens qu'il y a négation. Vous voyez ? C'est en ce sens qu'il y a néantisation. Vous voyez ? Mais il ne s'agit pas de détruire le réel. Il s'agit simplement de le modifier, ou de changer son rapport avec le réel. Et donc, vous voyez que maintenant, vous allez voir que la conséquence est très importante de ce que je viens de vous dire. Parce que si vous y réfléchissez bien, ce pouvoir de néantisation exclut que la conduite humaine soit réductible au résultat d'un enchaînement de causes. Pour le dire d'une autre façon, ce pouvoir de néantisation exclut tout déterminisme. Et ça, c'est très important, c'est ce que nous allons montrer par des exemples. Ce pouvoir de néantisation exclut tout déterminisme selon lequel les choix d'un homme ne seraient que la conséquence des motifs et des mobiles qui s'imposent à lui et qu'il pousse à agir. Je répète, ce pouvoir de néantisation exclut tout déterminisme selon lequel les choix d'un homme ne seraient, au fond, que le résultat, hein, que le résultat de cause, hein, la conséquence de motif, de mobile, hein, qui le pousse finalement à agir. Et ça, c'est très important. Alors, peut-être mise au point sur le vocabulaire, un motif, qu'est-ce qu'on entend ordinairement par un motif ? La raison objective qu'on a d'agir. Voilà. Et par mobile, la raison subjective qu'on a d'agir. Par exemple, une ambition, une jalousie, peu importe. Donc, vous voyez. Eh bien, pour bien comprendre ce point, et Sartre, justement, va s'appuyer sur un exemple d'ordre historique, l'exemple de la révolte des Canuts de Lyon, en 1831. Et là, je vous ai photocopié le texte, mais on va voir après. Je vous présente un peu les choses. Donc, selon l'explication ordinaire, qui est une explication déterministe, enfin, au fond, le sens commun est assez déterministe. Selon le schéma déterministe auquel nous recourons communément, une action révolutionnaire, c'est une action qui transforme la société, s'explique par un certain nombre de causes, par des motifs, par des mobiles. Les mobiles, la souffrance, la misère, engendreraient l'action révolutionnaire. Vous voyez ? Voilà l'explication déterministe. Mais en vérité, ce schéma déterministe nous interdit de comprendre la différence entre une révolte et une révolution. Et c'est ce que va s'employer à montrer Sartre. Les Canuts de Lyon, très belle ville, les Canuts de Lyon se révoltent parce qu'ils n'en peuvent plus. Ils sont misérables, ils ont faim, et leurs salaires ont été brutalement baissés. Et pourquoi ils ont été baissés ? Ils ont été baissés par les négociants qui leur achètent la soie qu'ils tissent. Ils ont baissé ces salaires étant donné la concurrence des nouveaux métiers à tisser qui sont beaucoup plus mécanisés et qui permettent de recourir à des manufactures centralisées. Et comme ça, ils peuvent acheter moins cher la soie qui est tissée. Effectivement, parce que vous savez que les canuts travaillent dans des habitations, ils sont disséminés dans l'habitat. Mais là, c'est comme ça qu'ils travaillent. Ils travaillent sur commande. Mais là, ça va de moins en moins parce que, ça y est, une mécanisation des métiers à tisser qui permet de concentrer en quelque sorte les machines dans des manufactures. Et à ce moment-là, la production est moins chère. Et donc, les canuts, ils sont violemment confrontés à cette concurrence. Seulement, une situation sociale peut être très dure. Elle peut engendrer de grandes souffrances. Elle n'entraîne pas pour autant le projet de rompre avec elle de la part de ceux qui en souffrent. Elle n'entraîne pas nécessairement le projet révolutionnaire qui consisterait à établir de nouveaux rapports sociaux. Tant que les souffrances et les misères infligées aux canuts leur semblent naturelles, tant qu'elles semblent faire partie de leurs conditions d'ouvriers, il peut y avoir des révoltes, il peut y avoir des réactions sporadiques, mais ce n'est pas là une action révolutionnaire. Une action révolutionnaire, c'est une action qui décide de rompre avec l'état des choses présents. Et une action, si vous voulez, effectivement, une révolte peut être consécutive de la baisse des salaires et de la souffrance éprouvée parce que les hommes ont faim. Mais tant que les hommes n'ont pas le projet d'une autre situation possible, eh bien, la baisse des salaires ne peut pas devenir un motif pour agir, et la souffrance éprouvée ne peut pas non plus devenir un mobile pour agir. C'est-à-dire que agir, évidemment, dans le sens d'une transformation, d'une modification de la société. Alors, c'est là que je vous invite à lire le texte. Page 2. Page 2. Alors, on ne va pas tout lire parce que c'est un peu long. Alors, vous, c'est des textes, je les ai photocopiés, ils sont un peu longs, mais lisez-les vous-même après la séance, dans la mesure du possible. Parce que là, je ne peux pas tous les lire. Eh bien, écoutez, c'est le premier, et on va le lire, depuis le début, carrément. Celui-là, on peut le lire en entier. Car il faut ici inverser l'opinion générale et convenir de ce que ce n'est pas la dureté d'une situation ou les souffrances qu'elle impose qui sont motifs pour qu'on conçoive un autre état de choses, où il en irait mieux pour tout le monde. Au contraire, c'est à partir du jour où l'on peut concevoir un autre état de choses qu'une lumière neuve tombe sur nos peines et sur nos souffrances et que nous décidons qu'elles sont insupportables. L'ouvrier de 1830 est capable de se révolter si l'on baisse ses salaires, car il conçoit facilement une situation où son misérable niveau de vie serait moins bas, cependant, que celui qu'on veut lui imposer. Mais il ne se représente pas ses souffrances comme intolérables. Il s'en accommode, non par résignation, mais parce qu'il manque de la culture et de la réflexion nécessaires pour lui faire concevoir un état social où ses souffrances n'existeraient pas. Aussi n'agit-il pas. Maître de Lyon, à la suite d'une émeute, les ouvriers de la Croix-Rousse ne savent que faire de leur victoire. Ils rentrent chez eux, désorientés, et l'armée régulière n'a pas de peine à les surprendre. Leurs malheurs ne leur paraissent pas habituels, mais plutôt naturels. Ils sont, voilà tout. Ils constituent la condition de l'ouvrier. Ils ne sont pas détachés, ils ne sont pas vus en claire lumière. Et par suite, ils sont intégrés par l'ouvrier à son être. Ils souffrent sans considérer sa souffrance et sans lui conférer de valeur. Souffrir et être ne font qu'un pour lui. Sa souffrance est la pure teneur affective de sa conscience non positionnelle, laissez les gros mots, mais il ne la contemple pas. Elle ne saurait donc être par elle-même un mobile pour ses actes, mais tout au contraire, c'est lorsqu'il aura fait le projet de la changer qu'elle lui paraîtra intolérable. Alors vous voyez, Sartre nous demande d'inverser notre manière de voir habituelle. Notre manière de voir habituelle, elle est spontanément déterministe. C'est parce qu'il souffre, c'est parce que la situation est insupportable, qu'ils vont effectivement chercher à... qui vont agir et qui vont transformer les choses et puis établir une nouvelle société. Bon, voilà, ça c'est le schéma qui est le nôtre. Eh bien non. Non, ça ne va pas. Ce n'est pas un bon schéma. C'est l'inverse. C'est l'inverse qu'il faut considérer. C'est parce que, effectivement, les hommes ont le projet d'une autre société possible que leur situation présente va leur paraître intolérable, inacceptable. Vous voyez, les canuts, là, ils souffrent. Bien sûr, ils souffrent. Ils réagissent, d'ailleurs. Hein ? Il y a une émeute. Ils n'en peuvent plus. Mais ils n'ont pas l'idée que les choses pourraient être autrement, que le monde pourrait être différent. Et comme ils n'ont pas ce projet, ils ne s'organisent pas. Et comme ils ne s'organisent pas, bah, ça va pas être difficile, effectivement, pour l'armée régulière de les réprimer. Vous voyez ? Voilà, il n'y a pas de projet révolutionnaire, ces gens-là. C'est pas vrai. Donc, il ne faut pas confondre la révolte des canuts avec une révolution. La révolte, encore une fois, n'est pas une action, parce qu'une action, c'est ce que montre Sartre, une action présuppose un projet qui vise un autre état de choses. Je reprends la formule de Sartre, je la relis. C'est à partir du jour où l'on peut concevoir un autre état de choses qu'une lumière neuve tombe sur nos peines et sur nos souffrances et que nous décidons qu'elles sont insupportables. Je pourrais même trouver d'autres exemples dans l'histoire. C'est pas au pire moment de l'exploitation de l'homme par l'homme, de l'oppression, que les hommes se rebellent forcément. Il n'y a pas l'idée que ça pourrait être autrement. Ils peuvent même vivre des siècles comme ça, dans la misère, être maltraités, et puis considérer que bon, bah, c'est dans l'ordre naturel des choses. Hein ? Donc, il faut qu'il y ait l'idée du possible pour que, effectivement, l'état présent paraisse un état qui pourrait, qui devrait être changé. Alors, et d'ailleurs, vous avez plus bas, regardez, une autre formule. Plus loin, le texte y est juste après, là. J'ai souligné. C'est la saisie d'une révolution comme possible qui donne à la souffrance de l'ouvrier sa valeur de mobile. Vous voyez, c'est la saisie d'une révolution comme possible qui donne à la souffrance de l'ouvrier sa valeur de mobile. Donc c'est la fin projetée par la conscience des hommes au-delà de la situation qu'ils vivent ou qu'ils ont vécu jusque-là, et qu'il vivait jusque-là comme allant de soi, eh bien, c'est cette fin projetée qui les conduit à se représenter leur situation présente comme inacceptable. C'est l'idée qu'une autre situation est possible qui les conduit à donner à leur souffrance un mobile. La valeur d'un mobile, c'est-à-dire que le mobile d'une action, bah c'est ce qui, évidemment, après, les mobilisera. Hein ? Et les conduira à agir pour transformer la société. Bon. Mais le mobile n'existe pas sans la fin projetée. C'est la fin projetée qui constitue la souffrance en mobile. C'est pas le mobile, la souffrance qui détermine par elle-même seule la révolte ou la révolution des canuts, c'est la fin. Donc, l'idée de pouvoir avoir une autre société qui va, justement, constituer la souffrance qu'ils vivent comme quelque chose d'intolérable, comme le mobile de leur action. Donc, contrairement, vous voyez, à ce qu'affirme la thèse déterministe, les motifs et les mobiles ne sont pas des causes qui détermine de l'extérieur la conscience et explique leur action. Vous voyez, selon le schéma déterministe, le rapport de l'action à un motif ou à un mobile est de même ordre que le rapport d'un phénomène naturel à sa cause. Je prends un exemple. Selon le schéma déterministe, la souffrance et la misère seraient le mobile qui explique ici l'action révolutionnaire, comme la baisse de la température permet d'expliquer le gel de l'eau. Vous voyez ? C'est le schéma qu'on adopte communément. Eh bien non, c'est pas comme ça que les choses se passent. Parce que si c'était comme ça que les choses se passaient, ben à ce moment-là, on ne comprendrait pas la différence entre une révolte et une révolution. La souffrance, elle peut effectivement engendrer des révoltes, des réactions, des émeutes, mais elle n'engendre pas une révolution. Une révolution, c'est vraiment une action qui consiste à modifier l'ordre des choses, l'état de choses. Mais une révolte, ce n'est pas une action, c'est une réaction. Donc, vous voyez que contrairement à ce schéma, donc c'est la fin projetée par la conscience des hommes qui fait apparaître leur souffrance comme immobile, et donc c'est l'idée d'une autre société qui leur fait apparaître cette souffrance comme intolérable, comme ne devant plus être. Bon, mais vous me direz, comment découvre-t-on qu'on est libre ? Comment prend-on conscience de sa liberté ? Ah oui ! Comment savons-nous que nos choix ne se réduisent pas à un déterminisme ? Comment savons-nous que nos choix ne sont pas simplement le résultat d'un certain nombre de causes, de facteurs, dont un certain nombre d'ailleurs nous échappent ? Donc la question, vous voyez maintenant, c'est celle de savoir comment nous prenons conscience de notre liberté. Et puis, il s'agit aussi de prouver cette liberté. Qu'est-ce qui nous prouve que nous sommes libres ? Comment le savons-nous que nous sommes libres ? Eh bien, Sartre, comment savons-nous que ce n'est pas une illusion ? Parce qu'après tout, ça pourrait être une illusion. Et le déterministe aura raison, d'une certaine manière, à ce moment-là. Eh bien, Sartre a montré que nous prenons conscience de notre liberté par ce sentiment tout à fait particulier qui est l'angoisse. Alors attention ici, parce qu'il peut y avoir une confusion, mais vous allez comprendre au fur et à mesure. Sartre ne tient pas un discours psychologique. Il ne se livre pas à une analyse psychologique, ce n'est pas ça. Mais une analyse ontologique, ce n'est pas la même chose. Vous allez voir pourquoi. Mais je reviendrai là-dessus. C'est en effet dans l'angoisse que nous éprouvons le fait que loin d'être soumis à un déterminisme, nous sommes irrémédiablement libres. Nous sommes irrémédiablement libres. Mais pour le comprendre, encore faut-il d'abord ne pas confondre l'angoisse avec la peur. L'angoisse, ce n'est pas la peur. La peur, c'est un sentiment que provoque en moi un danger ou une menace. J'ai peur d'un chien, j'ai peur du noir, j'ai peur d'un homme en colère, j'ai peur de tomber dans un précipice si je m'approche de trop près. On peut multiplier les exemples, mais j'ai toujours peur de quelque chose. Ma peur se rapporte toujours à quelque chose. Elle se rapporte à une chose que je peux rencontrer comme une menace ou comme un danger. Or, comme nous allons le voir, l'angoisse, elle, ne se rapporte pas à une chose, elle se rapporte à ma liberté. Et pour montrer cette distinction, eh bien, Sartre va prendre encore un exemple, voyez, l'exemple du vertige. Et ce passage se trouve dans la première partie de l'Être et le néant, qui est consacrée précisément au problème du néant. Et là, vous allez prendre avec moi le texte de la page 1. On ne va pas tout lire, hein. On va aller jusqu'à la ligne 13, 1 à 13. Bon. Que signifie l'angoisse dans les différents exemples que je viens de donner? Reprenons l'exemple du vertige. Le vertige s'annonce par la peur. Je suis sur un sentier étroit et son parapet qui longe un précipice, le précipice se donne à moi comme à éviter. Il représente un danger de mort. En même temps, je conçois un certain nombre de causes relevant du déterminisme universel qui peuvent transformer cette menace de mort en réalité. Je peux glisser sur une pierre et tomber dans l'abîme. La terre friable du sentier peut s'effondrer sous mes pas. Et à travers ces différentes prévisions, je suis donné à moi-même comme une chose. Je suis passif par rapport à ces possibilités. Elles viennent à moi du dehors. En tant que je suis aussi, un objet du monde, soumis à l'attraction universelle, ce ne sont pas mes possibilités. Arrêtons là, pour l'instant. Alors, voyez, donc, je reprends cet exemple. Quand j'ai peur, je fais très attention. Je prends toutes les précautions nécessaires. Je décide, par exemple, si je me promène sur un sentier qui borde un précipice, je me tiendrai le plus loin possible du bord du sentier. Hein. Quand je vais à Étretat, je vais à 150 mètres. Je ne m'approche même pas 50 mètres, trop près. Bon, mais je m'aperçois alors que cette conduite, c'est ça qui va se produire dans le texte, je m'aperçois alors que cette conduite se révèle à moi comme une conduite possible. Je veux dire par là que je me tiendrai le plus loin possible du sentier, c'est une possibilité. Ce n'est qu'une possibilité qui émane de moi. Je découvre ainsi avec horreur qu'il m'est tout à fait possible, au lieu de me tenir au plus loin du bord du sentier, de me jeter tout simplement dans le précipice. Ligne 27, regardez les deux dernières lignes. Mais ces conduites, précisément parce qu'elles sont mes possibilités, ne m'apparaissent pas comme déterminées par des causes étrangères. Oui, la peur, elle est déterminée par des causes étrangères. Et l'angoisse, elle est angoisse devant mes possibilités, devant ma liberté. Vous voyez ? Elle est rapport à ma liberté. Et comme je cite un autre passage, alors que je ne l'ai pas photocopié hein, ici, voilà ce que dit Sartre, mais précisément, je m'angoisse parce que mes conduites ne sont que possibles. Donc, vous voyez que là, on passe de la peur à l'angoisse. Ça commence par la peur, mais c'est l'angoisse là qui surgit. Je découvre, en effet, dans l'angoisse, qu'il ne tient qu'à moi de faire attention ou de ne pas faire attention. Il ne tient qu'à moi de m'éloigner du précipice ou au contraire de m'en approcher. Et là, je suis dans l'angoisse. Fermez les yeux. Imaginez que vous êtes près d'un précipice. Hein ? Et que vous pourriez très bien, au lieu de rester droit hein, sur le chemin, vous pourriez très bien... Hein, bon, vous pouvez comme ça produire en vous-même l'angoisse, vous voyez, par ce scénario, en fermant les yeux. Bon, à travers l'angoisse, vous voyez, je découvre ma liberté. Je décide maintenant de prendre des précautions, mais je sais, ou en tout cas, je ne sais pas plutôt, je ne sais pas ce que je ferai tout à l'heure. Tout est possible. Tout est possible. Il ne tient qu'à moi de sauter dans le précipice. Regardez le texte plus loin, juste après. Le texte juste après. Si rien ne me contraint à sauver ma vie, rien en italique, hein, rien ne m'empêche de me précipiter dans l'abîme. La conduite décisive émanera d'un moi que je ne suis pas encore. Ainsi, le moi que je suis dépend en lui-même du moi que je ne suis pas encore. Dans l'exacte mesure où le moi que je ne suis pas encore ne dépend pas du moi que je suis. C'est-à-dire, entre l'avenir et le présent, il n'y a pas de continuité. Il n'y a pas de continuité. C'est pas parce que je me tiens sage et je me tiens loin du précipice que tout à l'heure, je ferai la même chose. Je ne suis pas assuré que tout à l'heure, je ferai la même chose. Il est possible que je ne le fasse pas. Et j'ai beau essayer ici de me rassurer, j'ai beau me dire qu'il y a en moi un instinct vital qui emportera ma décision, je découvre en fait qu'aucun motif, qu'aucune tendance n'est vraiment contraignante. Aucune tendance ne me garantit que j'adopterai tout à l'heure la bonne conduite. Oui, pour me rassurer, je me dis, oui, mais bon, je me connais, j'ai un bon instinct vital qui fera que... Non, ben, j'en sais rien. Dans l'angoisse, vous voyez, je découvre ainsi que ma liberté est sans attache, qu'elle n'est arrêtée par rien. Elle n'est arrêtée par rien. Rien ne détermine par avance mon choix. C'est pas parce que j'agis maintenant comme si que tout à l'heure, j'agirai identiquement. Il se peut que... Il est possible que. Donc il ne tient qu'à moi de décider. Et c'est cette découverte qui est proprement vertigineuse. Vous voyez que l'angoisse est donc ce sentiment qui nous met en face de notre liberté. Notre liberté, c'est ce qui fait que justement, je ne suis pas réductible à un instinct vital, à je ne sais quelle tendance qui, assurément, me garantirait que de toute façon, je ne sauterai pas. Non, je ne peux même pas avoir cette assurance. Alors, ne nous méprenons pas ici sur le sens du texte. La question, encore une fois, n'est pas d'ordre psychologique. Elle n'est pas celle de savoir s'il y a en moi des tendances morbides, suicidaires, qui me poussent à commettre un acte irréparable. Ce n'est pas ça la question. Ce type d'explication psychologique, d'ailleurs, demeure prisonnier d'un schéma déterministe. Bon. Non, la question est d'ordre ontologique. C'est-à-dire que, qu'est-ce que veut surtout souligner Sartre ? Il veut souligner que l'angoisse me révèle que je peux, décider de tomber dans le précipice sans que rien ne m'y détermine, précisément. Je peux. Ça ne veut pas dire que je le ferai, mais je peux. Vous voyez, donc cette... angoisse qui est révélatrice de la liberté, fait que, justement, nous voudrions pouvoir échapper à notre liberté. Nous voudrions pouvoir lui échapper. Nous voudrions pouvoir nous y soustraire. Mais l'angoisse nous révèle que c'est impossible. L'angoisse nous révèle qu'il nous appartient de décider seul, sans pouvoir compter sur le moindre secours. Vous voyez ? Et Sartre peut dire ainsi, la formule est devenue célèbre, que nous sommes condamnés à être libres. Nous sommes condamnés à être libres. C'est-à-dire que personne ne peut décider à ma place, d'une part, et d'autre part, je ne peux même pas être assuré qu'il y aura, encore une fois, une bonne tendance qui fera que je ferai ce qui convient. Donc ça, évidemment, nous sommes condamnés à être libres, c'est une formule paradoxale. C'est une formule assez provocatrice, comme Sartre les affectionne dans son œuvre. Et pourquoi il aime ces formules provocatrices ? Parce qu'elles nous contraignent à mesurer le problème qui se pose. A priori, c'est absurde de parler de condamnation ici. Une condamnation, c'est quelque chose que nous subissons, quelque chose qui nous est infligé. Comment la liberté pourrait-elle être une contrainte ? Apparemment, dire que nous sommes condamnés à être libres, c'est une absurdité. Apparemment. Et pourtant, c'est bien ce que révèle l'angoisse. Nous sommes effectivement contraints d'être libres. Nous sommes contraints d'être libres. Nous n'avons pas le choix d'être libres ou non. Nous ne pouvons pas, ici, renoncer à notre liberté. Nous n'avons pas le choix d'être libres ou non. Alors, nous sommes libres au sens où c'est nous qui choisissons dans un sens ou dans l'autre, oui. Mais nous n'avons pas le choix d'être libres ou non. Nous n'avons pas la liberté d'échapper à notre liberté. Nous n'avons pas la liberté d'échapper au choix. Nous sommes condamnés à choisir. Ça, c'est insupportable. Il vaudrait bien ne pas avoir à le faire. Nous sommes condamnés à être libres au sens où nous sommes condamnés à décider seuls de notre être et de notre action. Alors vous comprenez maintenant pourquoi la liberté n'a rien de plaisant, ni d'aimable, mais qu'elle est plutôt un fardeau, lourd à porter. Les hommes croient l'aimer tant qu'ils n'y sont pas contraints. Tant qu'ils n'y sont pas contraints, tant qu'ils ne sont pas condamnés à choisir dans l'angoisse, dans la vie ordinaire. Vous voyez, au fond, on dit tous « Ah, moi, j'aime la liberté. » Bon, mais la liberté, la vraie question de la liberté, elle se pose dans certaines situations où nous sommes, en quelque sorte, acculés à un choix. Vous voyez ? Mais dès lors que l'angoisse, justement, confronte les hommes à leur liberté, ils sont tentés de la fuir. Ils sont tentés de la fuir. Et cette tentation, comme nous allons le voir, cette tentation, c'est ce que Sartre appelle la mauvaise foi. Nous entrons dans la troisième partie de notre propos. La mauvaise foi, c'est cette conduite qui consiste à se mentir à soi-même sur ce qu'on est et sur ce qu'on fait. Et Sartre lui consacre un chapitre dans L'être et le néant, dans la première partie. Alors, ce qui la rend possible, c'est précisément le mode d'être de la réalité humaine. Ce qui la rend possible, c'est précisément la liberté qui est au cœur de notre être, qui constitue notre réalité. Et je rappelle, il faut le rappeler, que contrairement aux choses, l'homme est toujours en décalage avec son être. Il ne peut pas y coïncider. Il ne peut jamais se réduire à son être. Hein. Rappelez-vous cela. Souvenez-vous de la définition que donne Sartre du caractère paradoxal de la conscience qui constitue le mode d'être humain. Elle est ce qu'elle n'est pas et elle n'est pas ce qu'elle est. Il faut toujours se rappeler ça. Eh bien, justement, l'homme de mauvaise foi, c'est celui qui se fait croire qu'il a un être comme les choses ont un être. Il se fait croire qu'il a une identité comme les choses ont une identité. Et au fond, il dénie sa liberté. Et la mauvaise foi, elle est surtout une conduite que l'on adopte quand on est assailli par l'angoisse, pour échapper à la liberté, par exemple devant le jugement d'autrui. C'est une conduite défensive. Et elle peut se manifester, comme le montre Sartre, de deux façons, selon deux stratégies opposées. Soit, première stratégie, soit on fait comme si on n'était pas du tout ce qu'on est. On fait comme si on n'était pas du tout ce qu'on est. Et Sartre va donner un exemple, l'exemple de l'homosexuel qui, honteux d'être homosexuel dans une société d'homophobes, eh bien, dénie son homosexualité. Il est très mal à l'aise. Il veut se faire croire. C'est vis-à-vis d'abord de lui-même, hein, c'est pas par rapport aux autres. Il veut se faire croire qu'il ne l'est pas, alors qu'il l'est. Ça, c'est la première stratégie. La deuxième, c'est celle qui, au contraire, consiste à dire qu'on est seulement ce qu'on est. On fait comme si on n'était que ce que l'on est. Et Sartre donne un exemple, c'est l'exemple du garçon de café. Alors, je ne vais pas développer tous les exemples, je ne vais pas développer l'exemple du garçon de café, il était très célèbre, très célèbre. On voit dans quel monde vit Sartre, hein, dans les cafés. Hein. Bon. Mais là, on va parler plus brièvement, enfin, parce qu'il est assez bref, on va prendre l'exemple de l'homosexuel. Et je vous ai photocopié le texte. page 1, une partie en tout cas du texte. Je ne vais pas le lire en entier, vous lirez à tête reposée. Je vais lire juste le début et j'aurai l'occasion de lire la fin. Donc, un homosexuel a fréquemment un intolérable sentiment de culpabilité et son existence tout entière se détermine par rapport à ce sentiment. On en augurera volontiers qu'il est de mauvaise foi. Bon. Et puis alors, je vais vous résumer tout ce que dit ensuite Sartre. Et son mode de défense se résume de la manière suivante. Oui, reconnaît-il, il m'arrive d'avoir des comportements homosexuels, mais fondamentalement, je ne suis pas homosexuel. Fondamentalement, je ne suis pas homosexuel. Donc il se fait croire ainsi qu'il n'est pas ce qu'il est, qu'il n'est pas homosexuel. Il fait comme s'il n'était pas du tout ce qu'il est. Et regardez la conclusion du texte. Je vais directement à la conclusion. Il entend n'être pas au sens où n'être pas en soi, c'est-à-dire comme une chose. Il déclare n'être pas pédéraste au sens où cette table n'est pas un encrier. Il est de mauvaise foi. Alors, Sartre utilise deux termes techniques, deux concepts, si vous voulez, pour expliquer un petit peu le processus de la mauvaise foi. C'est pas compliqué, je vais vous les présenter. Il utilise deux termes qui désignent au fond deux aspects inséparables de la liberté. Le terme de facticité ça veut dire les faits, quoi, hein, les faits. Il se trouve que, oui, l'homosexuel est homosexuel, c'est un fait. Et puis, le terme de transcendance, la transcendance renvoie, si vous voulez, à la conscience qui est toujours au-delà de la réalité, qui vise toujours au-delà du fait, justement, d'être homosexuel. C'est-à-dire que la liberté, elle est toujours entre ces deux pôles, de facticité et de transcendance, vous voyez. Et il n'y a pas de pure transcendance, l'homme n'est pas un pur esprit qui pourrait s'échapper complètement de ce qu'il est en fait. Et il n'est pas purement non plus un fait, il n'est pas non plus réductible à ce qu'il est, homosexuel, français ou autre. Hein. Et voilà, il est dans cette espèce d'entre-deux permanent. Donc ici, qu'est-ce que dit Sartre pour expliquer un petit peu ce qui se passe? Eh bien, la mauvaise foi de l'homosexuel consiste à nier donc le mode d'être de l'homme, qui est d'être à la fois une facticité et une transcendance. Je viens de vous expliquer ces termes, c'est-à-dire que il affirme sa transcendance, le fait qu'un homme ne se réduise pas à ce qu'il est en fait, il affirme sa transcendance comme étant sa facticité, comme il sent bien qu'il est par sa conscience au-delà du fait d'être homosexuel ou autre, eh bien, il va en quelque sorte retourner les choses en se présentant sa propre transcendance, cette espèce de d'irréductibilité, comme sa condition réelle, comme le fait qu'il est. Enfin, c'est ça, lui. C'est ça. C'est pas homosexuel qu'il est. C'est ça. Cette espèce de, vous voyez, de subtilité qui fait aller au-delà de ça, quoi. Et donc, parce qu'en tant que conscience, il ne se réduit pas à être homosexuel, eh bien, il se fait croire qu'il n'est pas un homosexuel, comme la table n'est pas un encrier. Vous voyez, vous avez ça. Alors, les analyses assez subtiles de Sartre, hein, qui sont assez fines. Hein. Bon, là, je suis un peu grossier dans mon résumé. À l'inverse de ce type de mauvaise foi, il y a celle qui consiste, au contraire, à affirmer qu'on est ce qu'on est, comme la table est une table. Et a affirmé cette fois-ci sa facticité comme étant une transcendance. Hein ? Bon. Alors, avant de vous parler brièvement de l'exemple du garçon de café, je prendrai un exemple personnel en tant qu'ancien professeur. Un jour, je faisais remarquer à un élève qu'il était franchement paresseux. Alors, l'élève en a convenu, il m'a dit « Oui, mais je reconnais le diagnostic, je suis très paresseux. Oui, mais je... Et croyez bien que je le regrette. » Mais je suis assis. C'est ma nature. Qui puis-je, hein? Donc il est paresseux comme la table est une table. Vous voyez, c'est ça, la mauvaise foi ici. Vous voyez, c'est comme les personnes qui « Oh, mais c'est mon caractère, je suis comme ça, c'est mon tempérament, je ne peux pas me changer. Je suis ainsi, comme la table est une table, comme l'encrier est un encrier. » Vous voyez? Remarquez le français de Chouche, dont je parlais tout à l'heure. À sa façon, il adopte cette stratégie de mauvaise foi. Il est français de Chouche comme la table est une table. Comme si, effectivement, être français, c'était uniquement être un végétal. Ben non. Ça ne peut pas être comme ça. Mais même processus. Alors, pour illustrer cette stratégie de mauvaise foi, Sartre donne l'exemple du garçon de café. Alors, il est très célèbre. Il faudrait que vous le lisiez. Hein, mais vous allez lire, vous allez acheter dès demain l'être et le néant, vous allez le dévorer. Et, non, mais je n'en doute pas, mais franchement, ce n'est pas un texte désagréable. Hein. Le début est dur. Mais il va montrer qu'au fond, un garçon de café, c'est quelqu'un qui joue à être garçon de café. Il adopte des postures. Et monsieur, ce sera quoi? Puis avec son plateau, vous voyez, il y a une véritable danse du garçon de café. Mais bon, il n'est pas ce qu'il est. Il ne se réduit pas à sa fonction de garçon de café. Seulement au bout d'un certain temps, en répétant indéfiniment ce jeu, le garçon de café risque de se faire croire, il finit par se faire croire, qu'il est garçon de café, que son être est celle d'un garçon de café, et que son rôle de garçon de café résume tout entier son être. Il transforme en quelque sorte son rôle en personnalité. Voyez, il se fond dans son personnage, comme quand vous vous moquez d'un certain nombre de gens qui ont l'air comme ça de se prendre très au sérieux, hein, et qui jouent un peu la fonction, qui sont en plein dans la fonction qu'ils exercent. Hein. Ah, ben, ça, c'est un professeur. Hein. Ça, c'est un monsieur. Vous voyez, bon, c'est un peu ça. Hein. Alors, vous voyez, qu'il s'agisse d'occulter ce qu'on est, en se faisant croire qu'on ne l'est pas, qu'on est autre chose, hein, ou, ça c'est l'exemple de l'homosexuel, ou qu'à l'inverse, on se fasse croire qu'on est seulement ce qu'on est. Dans les deux cas, la mauvaise foi consiste à fuir le mode d'être de la réalité humaine, qui est la liberté, et à se faire croire qu'on est à la manière des choses. On est à la manière des choses. Soit je suis au sens où je ne suis pas homosexuel, soit je suis ce que je suis, garçon de café ou paresseux. Vous voyez ? Alors, à l'opposé de la mauvaise foi, et vous pourriez penser que l'opposé de la mauvaise foi, c'est la sincérité. Eh bien non, parce que la sincérité, c'est une conduite de mauvaise foi. Oui, parce que dit celui qui est sincère ? Celui qui veut être sincère, il dit, mais vous voyez, tu vois bien, je suis moi. Je te montre tel que je suis. Non, on n'est jamais ce qu'on est. On est toujours en décalage avec son être. Alors, on peut être authentique, par contre. La sincérité, l'idéal de sincérité, il tombe dans la mauvaise foi. On prétend avoir un être comme si on était entièrement, uniquement ce qu'on est. Non. Le mode d'être de la liberté fait qu'on ne se réduit pas à ce qu'on est. Alors, être authentique, l'authenticité, c'est, au fond, cette attitude qui consiste à assumer sa liberté dans ces deux aspects, facticité et transcendance, dans ces deux aspects. Si l'homosexuel était authentique, il assumerait son homosexualité sans jamais pour autant s'y réduire. Sans jamais pour autant s'y réduire comme s'il s'agissait d'une nature, comme s'il y avait une nature d'être homosexuel. Vous voyez ? Voilà, c'est ça, l'authenticité. D'ailleurs, je pensais aux réflexions sur la question juive, où Sartre parle du juif inauthentique qui se trouve, au fond, dans la situation aussi un peu comme celle de l'homosexuel, qui se trouve jugé, qui se trouve culpabilisé d'être appréhendé comme juif, et qui va, pour échapper à sa judéité, qui va en rajouter en montrant surtout qu'il n'aime pas l'argent. Alors, surtout faire des démonstrations en ce sens, parce que comme antisémite pense que les juifs aiment plus l'argent, eh bien il va montrer d'une façon excessive qu'il est généreux. Et vous voyez, il est acculé à des attitudes, vous voyez, qui sont justement ce que Sartre appelle la mauvaise foi. Vous voyez l'idée. Alors, mais l'angoisse ne met pas seulement en jeu la question de notre identité, elle concerne aussi notre action. Elle nous révèle que nous ne pouvons pas fuir notre liberté en nous abritant derrière des valeurs considérées comme des choses extérieures à la conscience. Elle nous révèle que les valeurs ne sont pas comme des écriteaux qui nous indiquent la voie à suivre. Les valeurs, ce sont des exigences fondées sur la liberté. Or, la mauvaise foi, justement, elle transforme les valeurs en écriteaux, vous voyez, en quelque sorte. Sur le plan moral, la mauvaise foi se traduit par ce que Sartre appelle l'esprit de sérieux. L'esprit de sérieux. Et cet esprit de sérieux consiste à se faire croire que les valeurs sont des données objectives qui ne relèvent pas d'un choix. Le bien et le mal, ça y est, ils sont posés, hein, ça y est, là, ils sont là-haut. Hein, bon, j'ai plus qu'à suivre. Vous voyez ? Et l'esprit de sérieux permet ainsi de se dissimuler sa liberté et de se délester du fardeau de cette liberté qui nous condamne à choisir. Le bien et le mal étant indiqués par avance, eh bien, on est dispensé d'avoir à se poser des questions, hein, on est dispensé d'avoir à réfléchir sur ce qu'on entend par le bien, on est dispensé d'avoir à assumer un choix. Et l'illustration de l'esprit de sérieux, vous la trouvez encore dans ce fameux livre, Les réflexions sur la question juive, où Sartre fait le portrait de l'antisémite. C'est un livre écrit en 1946. Hein. L'antisémite, étant convaincu que le juif est l'incarnation du mal, eh bien, il s'estime dispensé d'avoir à se demander en quoi consiste le bien. Or, moi, je sais ce qu'est le mal. Ben, donc, il peut se transformer en chevalier du bien. Et il peut ainsi faire violence aux juifs sans se poser de questions, sans s'embarrasser de scrupules. Vous voyez, il a en quelque sorte bonne conscience. Hein, la bonne conscience. La bonne conscience, c'est ça. La bonne conscience, c'est cette attitude, c'est une attitude de mauvaise foi qui consiste effectivement à poser les valeurs comme des choses, hein, des écriteaux qui nous indiquent la voie à suivre et qui nous dispensent d'avoir à réfléchir et à nous poser des questions. Reste la dernière question. La liberté de l'homme, quatrième point, cette liberté qui le constitue dans son être, signifie-t-elle qu'il plane au-dessus des choses et qu'il peut faire abstraction des situations concrètes dans lesquelles il est placé ? Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas la conclusion de Sartre, mais il faut comprendre pourquoi. Comme l'écrit Sartre, l'homme, je cite, « est tout entier » est toujours libre. Il est tout entier et toujours libre. Puisque c'est son être même. La liberté est un absolu. Il est libre ainsi en toutes circonstances, quelles que soient les circonstances. Serait-il prisonnier ou réduit à l'esclavage ? Parce que la condition d'opprimé ne change rien au fait qu'il est ontologiquement libre. La condition d'opprimé ne change rien au fait qu'il est libre en son être d'homme. Ça constitue son être, sa réalité. Ça, c'est ce qu'il faut toujours rappeler, d'abord bien comprendre. Mais cela ne veut pas dire, bien sûr, que la liberté humaine plane au-dessus du monde et qu'elle puisse faire tout ce qu'elle veut en faisant fi des situations. Justement, comme le montre Sartre dans la dernière partie de L'être et le néant, la liberté humaine, elle est toujours en rapport avec une situation. Elle est, comme l'écrit Sartre, liberté en situation. Alors, donc, ça veut dire ici qu'on ne peut pas, l'homme ne peut pas faire abstraction des situations. La liberté ne peut aucunement négliger les conditions de son exercice. Dès lors, c'est sur le terrain moral, sur le terrain politique, sur le terrain historique que doit se poursuivre la réflexion sur la liberté, qui devient à ce moment-là une réflexion sur l'usage qu'on en fait. Mais d'abord, pour bien comprendre ce point, disons d'abord que nous ne choisissons pas notre situation. Elle est un fait qui nous échoit. Je n'ai pas choisi de naître. Je n'ai pas choisi non plus le lieu de ma naissance. Je n'ai pas choisi le milieu social où j'ai grandi. Et tout ce qui s'ensuit. La situation est un fait que je ne choisis pas. Toutefois, si j'ai reçu une place dans le monde que je n'ai pas choisie, je ne me contente pas de vivre à cette place, comme une huître qui adhère à son rocher. Cette place m'apparaît comme ma place, à la lumière du sens que je lui donne, par ma conscience. Vous voyez ? Cette place, c'est ma place, je la vis comme ma place, parce que je lui donne sens par ma conscience. Et ici, conscience et liberté sont des termes synonymes, hein. Vous aurez compris. Ainsi, la liberté est en situation, oui, mais c'est elle qui choisit le sens de cette situation. C'est elle seule qui en décide, comme nous allons le comprendre par des exemples, encore une fois. Alors évidemment, ce que je viens de vous dire, tout de suite, aussitôt, on peut imaginer l'objection déterministe, qu'on peut y opposer. On est tenté d'opposer à ce que je viens de dire, à cette affirmation, une objection effectivement de type déterministe. Oui, mais ce choix que je donne à ma situation, ce sens que je prétends lui donner par ma liberté, est-ce qu'il n'est pas en réalité déterminé par un certain nombre de facteurs, comme ma petite enfance, ma classe sociale d'origine, les traditions du peuple auquel j'appartiens, etc., etc., etc. Est-ce que ça ne s'explique pas ? Vous voyez, l'objection déterministe, elle est toujours là. Est-ce que franchement, il y a un choix ? Est-ce qu'il n'est pas déterminé par les conditions d'existence dans lesquelles j'ai vécu et dans lesquelles je suis ? Et donc, si on tient compte de ces facteurs, est-ce que je peux vraiment affirmer que ma liberté choisit le sens de ma situation ? Comment peut-on vraiment parler d'un choix ? Alors, pour répondre à cette objection, eh bien, on s'appuiera sur quelques exemples. Je ne vais pas tous les donner, hein, mais il y en a quelques-uns, dans L'être et le néant. Il y a le plus simple, d'abord, c'est l'exemple du rocher. Alors, vous l'avez, il est page 2, je ne vais pas le lire pour aller plus vite, hein, mais parce qu'il est simple, vous verrez. Page 2, c'est le premier texte. Non, c'est le deuxième, je crois. En bas. Bon. Si lors d'une excursion, je rencontre un rocher sur mon chemin, je serais tenté de dire qu'il m'empêche d'aller plus loin, qu'il est un obstacle à ma liberté. Pourtant, ce rocher ne m'indique pas ce que je dois en faire. Que ce rocher existe, c'est un fait indiscutable dont je ne peux pas faire abstraction. Mais peut-on pour autant en conclure que ce rocher est objectivement un obstacle ? Est-ce qu'il est objectivement un obstacle ? Il se révèle un obstacle que si je veux le déplacer. Mais il peut aussi bien m'apparaître comme une aide précieuse, si je veux l'escalader pour contempler le paysage. C'est en fonction du projet qu'il est obstacle ou aide. C'est le projet qui donne sens à la situation, qui lui donne le sens d'un obstacle ou d'une aide. Ce que je fais donc du rocher, ce que je vais faire du rocher, n'est pas inscrit par avance dans le rocher. C'est ma liberté seule qui lui donne sens, qui lui donne le sens d'un obstacle ou d'une aide en fonction de son projet. Alors, on va me dire, oui, votre exemple est un peu simple, un peu simpliste tout de même. Il ne m'affecte pas en mon être. Hein. Bon. Prenez l'exemple d'un handicap. Ce sera beaucoup plus sérieux. Si on prend l'exemple d'un handicap, est-ce qu'on ne doit pas dire qu'un homme paralysé des jambes est tout de même moins libre que lorsqu'il pouvait en faire usage? Alors effectivement, c'est un fait que cet homme ne puisse plus marcher, que ses capacités motrices soient réduites. C'est un fait qu'on ne peut pas nier, dont on ne peut pas faire abstraction. Mais ce handicap ne détermine pas le sens que lui donne l'homme qui en est affecté et la manière dont il le vit. En définitive, vous voyez, au fond, la liberté, c'est ce qui donne sens. Elle n'est pas, évidemment, ce qui va annuler la situation. Ah ben, c'est absurde. Mais elle lui donne sens. Il y a plusieurs façons de se rapporter ici, évidemment, à une situation d'handicap. Il ne s'agit pas de... On peut effectivement lutter contre lui, peut-être par des moyens, des techniques, je ne sais pas. Enfin, disons que tout cela n'est pas inscrit par avance. En définitive, c'est parce qu'on se méprend sur ce qu'est la liberté que l'on conclut volontiers qu'elle n'existe pas, qu'elle n'est qu'une illusion. On la confond avec le pouvoir de faire, avec le pouvoir de faire ce qu'on veut. Or, il est clair que la liberté ne consiste pas ici dans la puissance, dans la toute-puissance. Elle ne peut pas faire disparaître le rocher, elle ne peut pas faire disparaître le handicap, mais elle néantise ce rocher, elle néantise ce handicap, en posant ce rocher ou en posant ce handicap comme ce avec quoi elle est en rapport et en lui donnant sens. En posant le rocher, en posant le handicap, elle lui donne sens. Elle est en rapport avec cette réalité, elle lui donne sens. Voyez ? Donc que le réel s'impose, que les faits soient têtus, c'est indiscutable. Mais cela ne détermine pas ce que nous projetons d'en faire. Cette réflexion prendra encore peut-être plus toute sa mesure si nous considérons la question du passé. Parce que là, vous allez me dire, ah, le passé, alors là vous n'allez pas me la faire. Hein. Le passé, ça, vous n'en faites pas ce que vous voulez. Là. Allez, qu'est-ce que dit Sartre, toujours de façon provocatrice ? Nous choisissons notre passé. On peut pas s'enlever. C'est une affirmation qui paraît aberrante. Tant il nous paraît, au contraire, que le passé pèse sur nos choix présents. C'est vrai. Et non seulement le passé nous paraît irrémédiable, irréversible, on ne peut pas revenir en arrière, mais il nous paraît exercer une influence considérable sur notre présent. Au point que nous nous en sentons souvent prisonniers. Alors que répond Sartre ? Oui, c'est vrai, nous ne pouvons pas faire que le passé n'ait pas été. Mais pour autant, mon passé ne me dicte pas ce que je vais en faire. Au contraire, et nous allons prendre des exemples, au contraire, les expériences de notre vie passée prennent un sens rétrospectif en fonction des choix que nous effectuons au présent en fonction du futur sur lequel nous nous projetons. Par exemple, là il donne cet exemple. Ce n'est pas parce que j'ai eu une crise mystique quand j'avais 15 ans que je me convertis à telle ou telle religion à l'âge de 30 ans. Ce n'est pas le passé qui détermine ici mon présent ou mon futur. Mais c'est à l'inverse. Parce que je décide de me convertir aujourd'hui à telle religion, à l'âge de 30 ans, j'en ai un peu plus, que cette crise mystique m'apparaît rétrospectivement comme le signe d'une conversion future. On va toujours du futur au passé, jamais du passé au futur. Vous voyez ? C'est donc le futur que je projette de réaliser qui donne sens au passé que j'ai vécu. Le futur n'est pas inscrit par avance dans le passé, mais il est au contraire ce qui donne sens au passé. Et donc, là, alors vous avez, là aussi, comme le temps passe, je ne vais pas lire le texte, vous le lirez vous-même, il est assez intéressant, ce texte. Et ce sont des textes simples, hein. C'est le texte page 3. Page 3, où il parle de la crise mystique, et puis il parle aussi de celui qui est en prison, et celui, on va peut-être parler du lien conjugal, c'est intéressant. Parce que comme le note encore Sartre, il y a dans notre existence des moments de crise. Des moments de crise au cours desquels nous avons besoin de chercher dans notre passé une justification de la décision que nous allons prendre. Et il donne l'exemple d'un homme en pleine crise conjugale qui se trouve confronté à la question de savoir s'il va ou s'il ne va pas rompre le lien conjugal. C'est assez amusant d'ailleurs comme texte. Bon. Enfin, on va le lire tout de même. Allez. Donc, c'est deuxième paragraphe, si vous voulez. Page 3, à gauche. Ligne 23. Ainsi, tout mon passé est là, pressant, urgent, impérieux, mais je choisis son sens et les ordres qu'il me donne par le projet même de ma fin. De ma fin, au sens de mon but. Hein. Sans doute, ces engagements pris pèsent sur moi. Sans doute, le lien conjugal autrefois assumé, la maison achetée à les traites, et meublée l'an dernier, limite mes possibilités et me dicte ma conduite. Mais c'est précisément parce que mes projets sont tels que je réassume le lien conjugal. C'est-à-dire précisément parce que je ne projette pas le rejet du lien conjugal, parce que je n'en fais pas un lien conjugal passé, dépassé, mort, mais que, au contraire, mes projets impliquant la fidélité aux engagements pris ou la décision d'avoir une vie honorable de mari et de père, etc., etc., viennent nécessairement éclairer le serment conjugal passé et lui conférer sa valeur toujours actuelle. Ainsi, l'urgence du passé vient du futur. Que soudain, à la manière du héros de Schlumberger, je pense que c'est un romancier de l'époque, je modifie radicalement mon projet fondamental, que je cherche par exemple à me délivrer de la continuité du bonheur et mes engagements antérieurs perdront toute leur urgence. Ils ne seront plus là que comme ces tours et ces remparts du Moyen-Âge que l'on ne saurait nier, mais qui n'ont d'autre sens que celui de rappeler comme une étape antérieurement parcourue, une civilisation et un stade d'existence politique et économique aujourd'hui dépassé et parfaitement mort. C'est le futur qui décide si le passé est vivant ou mort. Donc vous voyez, vous avez deux possibilités hein, pour cet homme. Hein. Soit il décide de réassumer le lien conjugal et il lui paraîtra urgent de se rappeler l'engagement de fidélité passée, comme si le passé lui recommandait de rester fidèle à cet engagement, ou au contraire, s'il décide de rompre le lien conjugal, eh bien l'engagement passé perdra toute urgence, il en sera de cet engagement comme des ruines du Moyen-Âge, dont on ne peut pas nier l'existence en tant que vestige, mais qui rappelle seulement une période de l'histoire évolue. Vous voyez, le parallèle est assez amusant. Bon, alors il faudrait parler aussi de notre liberté par rapport à celle des autres. Il y a le livre 3, la partie 3 de Sartre sur la question des rapports avec autrui est vraiment géniale. Mais bon, on ne peut pas en parler là. J'aurais voulu parler. C'est le dernier texte. Hein. Enfin, voilà, la question que je me posais, la question que j'allais vous poser, c'est la suivante. C'est qu'on est maintenant en mesure de comprendre pourquoi la liberté ne nous paraît pas agréable hein. Ou plutôt, la question est plutôt de savoir pourquoi ordinairement la liberté ne nous paraît pas angoissante. Pourquoi elle nous paraît plutôt aimable. Alors que nous venons de voir que quand elle est révélée par l'angoisse, elle est au contraire un véritable fardeau. Eh bien, la réponse à cette question, c'est la suivante maintenant, on peut la comprendre. Nous croyons aimer la liberté parce que nous n'y sommes pas vraiment confrontés. Le cours ordinaire de notre existence, ou de notre vie quotidienne, nous dissimule que le sens des situations vient de notre liberté. Et il faut des situations de crise pour que la liberté soit révélée dans l'angoisse. Nous sommes à ce moment-là acculés à des choix qui nous paraissent lourds à porter. Ça ne dépend que de nous. Et sentons bien que personne ne va pouvoir nous dire ce qu'il faut faire. Ou alors, si on va voir telle personne, c'est pour lui demander des conseils, c'est qu'on sait à l'avance quel type de conseils elle va nous donner, donc on a déjà choisi. Les situations de crise, vous voyez, nous obligent à nous positionner, à assumer notre liberté. Et je voulais terminer là-dessus, mais vous lirez vous-même ce très beau texte de Sartre, qui n'est pas dans L'être et le néant, qui est dans un article qu'il a écrit juste à la fin de la guerre. La situation tragique dans laquelle les hommes, les Français, sont exposés dans l'histoire au moment de l'occupation allemande. Texte qui commence par la formule, vous allez voir, tout de suite, « Jamais nous n'avons été plus libres que sous l'occupation allemande. » Alors, ça, bah, c'est typique, évidemment. Il va pas nous raconter que c'était génial l'occupation allemande, qu'on était heureux, que c'est pas ça du tout. Mais pourquoi il dit ça? Parce que c'est une situation au contraire tragique qui nous met en quelque sorte au pied du mur. Et nous ne pouvons pas fuir dans la mauvaise foi. Là, nous sommes contraints d'être libres. Nous sommes contraints de choisir. Hein. C'est à cause de cela. À cause de tout cela, nous étions libres. Et il parle d'une façon assez belle de tous ces résistants qui vont... Alors là, c'est pas tous les hommes, hein, c'est les héros résistants et qui vont dont la liberté, finalement, n'a pas de limite. C'est-à-dire, pour eux, il n'y a pas de situation inhumaine, il n'y a pas de situation intolérable qui fixe a priori des limites à la liberté, puisqu'ils vont jusqu'à tolérer la torture, y compris même la mort. C'est-à-dire que la liberté s'affirme jusque dans la mort, jusque dans la torture, comme quelque chose qui constitue notre humanité, qui est au-delà finalement de la mort et de la torture. Donc il y a de très beaux textes de Sartre là-dessus, mais bon, je ne peux pas trop vous en dire grand-chose. Vous le lirez, c'est celui qui se trouve là. Voilà. Alors, désolé, là on a été un peu long. Mais il y a un peu de temps pour discuter.
Celui qui professionnellement s'interdit toute responsabilité.
Est-ce que
celui qui professionnellement refuse toute responsabilité reste...
C'est difficile, parce qu'il y a toi-même une éthique pour chaque profession.
Pardon ?
Il y a toi-même une éthique, une déontologie pour une profession, déjà.
Non, je veux dire, j'ai des promotions que je refuse systématiquement, je veux rester pas... possible pour ne pas avoir de responsabilité.
Ah oui.
Pour ne pas avoir de choix.
Un choix,
hein?
C'est un choix.
C'est un choix, mais je suis privé de liberté.
Oh non, 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 non. Vous n'êtes jamais privé de liberté. Vous ne pouvez pas être privé de liberté, puisque vous êtes, c'est votre être, la liberté. Si vous avez compris ça, c'est votre être. Donc, vous, au sens où vous êtes condamné à choisir, où vous choisissez en permanence, même si vous ne vous apercevez pas consciemment du choix que vous faites de votre existence, vous choisissez. Nous sommes perpétuellement choix de notre existence. Nous nous faisons être en permanence par nos actes. Donc nous choisissons et rien ne permet de nous dire à l'avance ce qu'il faut que nous fassions. Il n'y a pas de table des valeurs qui nous indique par avance voilà le chemin à suivre. C'est à nous constamment d'inventer.
C'est pas ça, oui. Ce que je veux dire.
Non, mais là, pour ce qui est votre exemple, c'est un choix. Pourquoi serait-il mauvais?
Mais qui m'amènera moins de liberté, j'aurai moins d'accès.
Mais non, puisque vous êtes toujours libre. Vous êtes libre tout entier. Parce que la liberté, pour Sartre, n'est pas une situation qui se mesure en capacité ou en droit. C'est mon être. Fondamentalement, ontologiquement, je suis libre. C'est ce qui constitue ma réalité d'être. C'est ça qui, finalement, est décontenançant, si vous voulez. Parce que nous ne sommes pas habitués à penser la liberté de cette façon. Oui ?
Je crois que le problème se pose dans la mesure où l'on a tendance à confondre pouvoir et liberté.
Oui ? Oui ? Oui ?
Je peux, donc je suis libre. Je suis libre, donc je peux.
Voilà, c'est l'exemple du handicap.
En fait, c'est pas ça, c'est... La liberté, c'est quelque chose qui s'inscrit dans le fait même d'être là, comme dirait, d'être au monde.
Oui, mais d'être au monde au sens actif. Hein,
oui,
on choisit d'être.
Voilà, un petit peu dans le sens du design d'Heidegger.
Oui, voilà, c'est une priorité. C'est-à-dire que l'être humain se choisit.
Oui, c'est ça.
Se choisit. Il se fait être. Il se fait être, même si nous n'avons pas d'une façon claire, toujours conscience de cela. Hein. Nous en prenons violemment conscience dans des situations de crise.
Et justement, tragique. Quelqu'un qui a beaucoup de pouvoir, qui peut avoir beaucoup de pouvoir, peut très bien ne pas être libre. Peut-être.
Il est libre. Tout être est libre.
Pas plus libre.
C'est-à-dire que quand on dit il est plus libre que moi, on l'évalue en termes de capacité ou de droit. On n'est pas sur le terrain ontologique. Sartre, il se situe fondamentalement sur le terrain de l'ontologie. C'est-à-dire que nous sommes libres, toujours libres. Mais alors on pourrait dire, ah ben c'est génial, non, c'est le pied, on est libre. Non, c'est pas ça, pas du tout, au contraire. C'est pas drôle d'être libre. C'est pas drôle du tout. Oui ?
Sartre va se situer aussi sur le domaine politique.
Ah oui ?
Et donc, comment va-t-il aborder politiquement et collectivement ?
Bonne question. Alors, dans l'être et le néant, c'est une réflexion d'ordre ontologique, une ontophénoménologie. Bon, et c'est vrai, vers la fin, dernière partie, effectivement, il aborde un peu ces questions-là. Mais c'est vrai que c'est après, dans son œuvre, qu'il va de plus en plus s'intéresser à la question sociale, à la question politique. Mais au départ, non. D'ailleurs qu'au début, avant-guerre, Sartre, franchement, se désintéresse de la politique. Il vit un peu... Il rentre en Suisse, en Allemagne, il ne s'aperçoit pas qu'il y a des nazis. Carrément, mais il le dit. Et c'est la drôle de guerre, c'est la guerre qui va l'éveiller à une réflexion sur l'histoire et sur la politique. Et après, quand il reviendra... Enfin, à la fin de la guerre, évidemment, sa vision a été profondément transformée. Mais il restera fidèle à son orientation philosophique. Mais elle va s'enrichir de toute une réflexion sur la politique. Bon, on sait bien, par exemple, tout de même, que dans les années 60, il s'est engagé contre la guerre coloniale en Algérie. Et son appartement avait été plastiqué, tout de même, par l'OS. Parce qu'il soutenait le réseau Janson. Bon, il y a quand même une prise de position. Hein. Mais ça, c'est plus tard. Puis après, bon, il est allé un peu dans une sorte de maoïsme, un peu.
Mais est-ce qu'il va retraiter de la liberté dans cette phase-là ?
Oui, mais d'une autre manière, de façon un peu moins... c'est une inflexion qui... Oui, il restera toujours fidèle à cette idée de liberté. Ça, c'est clair, oui. Mais bon, il s'intéresse beaucoup plus aux mécanismes de groupe. Son autre grande œuvre, c'est la critique de la raison dialectique, qui est un livre énorme. Puis il y a aussi un livre sur Flaubert. C'est quelqu'un qui est il est impressionnant tout de même. Il est une fécondité philosophique absolument extraordinaire. Puis tout de même, il écrit très très bien. Parce que bon, on souligne ses textes un peu techniques, un peu ardus dans l'être néant, c'est vrai. Mais il y a des articles qui sont lumineux, qui sont écrits d'une façon... c'est assez remarquable. Enfin, non, il a écrit plein de choses. Donc oui, il s'intéresse beaucoup à la politique. Alors, dans l'être et le néant, ça n'apparaît pas autant. Au départ, moins. Même il y a une sorte de mépris un petit peu aristocratique hein, chez Sartre au départ. Hein. Bon. Oui ?
Supposons qu'on soit dans une situation d'angoisse parce qu'il y a des décisions à prendre. Et la liberté, comme vous l'avez bien expliqué, c'est angoissant. Et qu'en est-il de l'indécision, de cette espèce de paralysie qui fait que il y a un blocage ?
Oui. Mais en même temps, on ne peut pas expliquer ça uniquement par la physiologie. La physiologie traduit ce qu'il en est de l'angoisse, du choix, etc. Le corps exprime ce qui se passe. Bon, je prends un exemple. C'est vrai que Sartre, il est connu surtout par une conférence qu'il a donnée à la fin de la guerre, qu'il a d'ailleurs reniée, parce qu'il trouve qu'elle n'est pas assez rigoureuse. C'est l'existentialisme est un humanisme. Alors ça, c'est... Tout le monde lit ça, mais c'est... Alors que, bon, je crois que dans L'être et le néant, il y a beaucoup mieux. Hein, il vaut mieux lire L'être et le néant. Ben, sauf ça te paraît effectivement démentiel. Mais dans l'existentialisme et l'humanisme, il y a quand même quelques exemples qui donnent à réfléchir, qui sont intéressants. Par exemple, il pense, enfin, c'est de mémoire, hein, à un de ses anciens élèves qui est face à un dilemme. Sa mère est très malade, gravement malade. Elle a besoin de lui. Et en même temps, il veut rejoindre les forces françaises libres. Et il pense que c'est son devoir. Être condamné à être libre, c'est pas. Personne ne peut vous dire à l'avance quel est le bon choix. Et chacun des choix engendrera ses problèmes. Enfin, c'est typique, ça.
Des situations. Choisi,
on s'est privé de la liberté d'avoir choisi. Ah non, 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 non. Le choix est toujours choix en situation. La liberté, elle résulte dans cette condamnation au choix. Maintenant, oui, choisir, c'est toujours effectivement un choix qui exclut d'autres choix. Ça, c'est clair. Mais le choix, là, c'est pas l'acte de choisir, c'est la situation qui fait que, forcément, tout choix élimine d'autres choix possibles. C'est la condition humaine. Hein. Oui ?
Alors, un taliban, un fou de Dieu, c'est un champion, un athlète de la mauvaise foi ?
Oui. Oui.
C'est quelqu'un pour qui tout est écrit, oui, dans le livre.
Absolument.
Et donc, oui, il n'y a plus de choix.
Sartre dit ça, c'est qu'il croit qu'il y a des signes objectifs, que son Dieu lui a commandé de massacrer les mécréants. C'est mon devoir, il faut que je vous tue. Et c'est vrai que, bon, et pour lui, les valeurs sont sacrées, elles sont données.
Et quelle attitude adopter face à des gens comme ça ?
Se protéger. J'ai l'attitude. Vous savez, comme disait Spinoza, face à un chien qui a la rage, il n'y a pas d'autre solution, c'est de l'abattre, pour ne pas être mordu.
Mais il y en a toujours beaucoup qui se lèvent, c'est le problème.
Si on est vraiment, si à l'évidence, il est dangereux et menaçant, et risque de tuer et massacrer, oui. Il est là. Oui, ben ça c'est. Mais. Nous sommes. Ce que Sartre appelle la mauvaise foi, c'est notre condition ordinaire.
Oui. C'est vrai qu'on a. Il y a l'expression assez courante de dire je n'ai pas le choix, en fait.
Oui, si.
Il y a une façon, peut-être,
oui,
de dire effectivement.
Oui. 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 Mais bien sûr. Et puis. On sait bien qu'on se laisse porter par des situations et on se fait croire qu'on n'a pas le choix.
C'est beaucoup plus
confortable. Et c'est vrai que. Mais en même temps, on ne peut pas vivre constamment dans l'héroïsme. ce matin, j'ai décidé de tout remettre en cause. Je vends mon appartement, ma voiture et je pars à zéro. Bon, ça, on le fait de temps en temps, mais pas tous les jours.
En même temps, il y a beaucoup de choses qu'on fait sans l'avoir vraiment décidé, un peu comme des enfants qui jouent.
On se fait croire qu'on n'a pas décidé.
Oui, ou des créateurs qui essayent des trucs.
On se fait croire qu'on n'a pas décidé.
On n'est pas vraiment dans l'action.
La mauvaise foi consiste à se faire croire qu'on a été poussé à, qu'on n'a pas eu le choix, qu'on est déterminé par. C'est-à-dire à invoquer le déterminisme.
Oui, mais ce n'est pas tout à fait ce que je voulais dire.
Ah non, bon.
Je crois que. En quelque sorte, c'est en marchant qu'on s'invente un but. Ça n'est pas toujours en ayant un but à l'avance qu'on se met à marcher.
Ah ben, le but, il est constant. On choisit, on se fait exister en permanence. Enfin, on choisit en permanence d'exister. Même si j'ai une vie simple, tranquille, peinarde, etc., je choisis tous les jours. Si je la vis, c'est que j'ai décidé de la réassumer, de la continuer. Cette vie-là. Je suis pas simple. Il n'y a pas de passivité pour ça. Il n'y a que de l'actif.
Mais ce que fait le créateur, ou l'inventeur, disons, est-ce que c'est de l'action ?
Oui, Oui, bah oui, il réalise un projet, oui, bien sûr. Ah oui.
Oui, mais quelquefois, on trouve quelque chose sans l'avoir fait.
Ah, oui, oui, mais enfin, non, d'accord, oui, je vois ce que vous voulez dire. Ça, je comprends. D'une certaine façon, de toute façon, l'œuvre artistique, elle n'est pas programmée comme on programme un outil ou la fabrication, je sais pas, d'une machine. C'est-à-dire que, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas une intention. Mais c'est une intention qui se découvre seulement à la fin.
Voilà.
Le projet découvre à la fin ce qu'il a fait. C'est quand on l'a fait qu'on sait ce qu'on a voulu faire. On ne sait pas clairement à l'avance ce qu'on va faire, ce qu'on veut faire. On ne découvre qu'en le faisant. Ça, oui, en art, c'est ça. Mais oui, en ce sens-là, une spécificité de l'activité artistique. Mais bon. Non, on choisit toujours. Pour ça, on choisit toujours. Alors, il y a des aspects que je n'ai pas pu évoquer. Par exemple, pour Sartre, on ne peut pas parler des passions comme quelque chose de purement passif. Même dans la passion, on choisit. Alors bon, là, je ne peux pas développer, hein, parce que c'est vrai qu'il y a plein de choses. Non, c'est une philosophie radicale, mais très intéressante et très cohérente. Et vous avez de très beaux textes. Le théâtre de Sartre est passionnant. Huis clos, c'est fantastique. Enfin, Les Mouches, etc. C'est un beau théâtre qui... Bon, quand moi j'étais plus jeune, il y a quelques années, ce théâtre était souvent représenté. Il avait été, mais beaucoup moins maintenant. C'est dommage. Pas mal. Et puis vous avez, bon, c'est nouvelle, c'est... Voilà, c'est...
Les mots,
ah oui, bon. Les mots, c'est son autobiographie. Ouais, mais ça, c'est un texte magistral. Oui, les mots. Si vous voulez lire un texte de Sartre sur son enfance, où il se moque, il y a beaucoup de dérision. Hein, et. Non, mais. Oui, normalement, c'est une œuvre intéressante, hein, vraiment. Et puis il y a plein, bon, les réflexions sur la question juive, il y a plein de textes vraiment intéressants. Et il a fait des... Parce qu'il avait le projet d'une psychanalyse existentielle. Alors ça n'a rien à voir avec la psychanalyse.
Il a écrit le scénario Freud aussi.
Oui, il a écrit ça. Et puis il a travaillé beaucoup sur Flaubert, sur Genet. Il a écrit un livre sur Genet, Saint Genet, comédien et martyr. Bon, je ne l'ai jamais lu, mais il paraît que c'est... extraordinaire, et que Genet était tellement impressionné que ça l'a bloqué, après il n'a plus créé. Donc, vous voyez. Non, mais c'est quelqu'un d'une inventivité, enfin d'une... Ouais, une fécondité. Absolument incroyable, évidemment. Il prenait un peu de chlorhydrate pour se soutenir. Mais les dix dernières années de sa vie n'ont pas été brillantes, hein, parce que... Ah bah oui, il était aveugle, puis bon, ça détruit, quoi. Mais il vivait tout le temps à 100 à l'heure. Tout le temps. Voilà. On peut peut-être s'arrêter, parce que là, je vois qu'il est l'heure. Et je vous dis... Oh, je sais plus combien.